au pays des contes. Bonjour. Qui raconte en plein jour aura des enfants chauves. Qui parle à l'heure de la nuit de son cœur révélera les soucis. C'est seulement au crépuscule du soir qu'on dira les merveilles d'histoire. Nous ne sommes pas au crépuscule du soir, mais j'espère vous donner des merveilles d'histoire. Et la première fait intervenir le roi Salomon. Le roi Salomon, dit-on, fut l'homme le plus sage du monde. Il parlait le langage des animaux, des végétaux, des minéraux et n'ignorait aucun secret de la terre, des mers ou des airs. Tous les jours, les représentants de chacun des oiseaux du monde venaient lui rendre hommage. Et tous formaient une immense voûte emplumée au-dessus de sa tête pour le protéger des rayons du soleil. Or, un après-midi où Salomon s'était assoupi sur son trône, un ray de lumière est venu lui caresser l'œil et l'a aussitôt éveillé. « Qui a quitté sa place ? » a-t-il demandé. Juché au sommet du trône, l'aigle a répondu « Qui oserait s'absenter au roi Salomon et manquer au plaisir de te rendre hommage ? Sans doute quelques ailes agitées se seront-elles disjointes ?» Mais le roi Telé, qui demeurait fièrement perché sur l'épaule de l'aigle, a seriné « Sors net ! Si l'un d'entre vous manque à l'appel, c'est assurément pour une raison de grande importance. Que chacun témoigne de sa présence. » Et dans un vacarme ahurissant, tous les oiseaux ont répondu par leurs cris. « Ô roi Salomon !» a dit le roi Telé dans le silence revenu. « C'est la huppe qui s'est absentée. » L'aigle, qui de ses yeux perçants scrutait déjà les quatre horizons, a ajouté « Ah, la voilà justement qui arrive !» Le roi Salomon l'a interpellé dès qu'elle s'est posée devant lui. « Par mon œil, où étais-tu passé, ô volage coquette ?» La huppe a roucoulé en faisant vibrer sa crête. « Excuse au roi plein de sagesse, mais c'est fidèle ambassadrice que tu devrais m'appeler. Apprends que si, sur ton précieux sommeil, j'ai tardé à venir étendre mes ailes délicates, c'est que, parcourant le monde pour chanter ta gloire, j'ai aperçu un long et magnifique cortège qu'acclamait toute la population. En voilà une musique, ai-je dit, et quel parfum rare! Aussitôt descendu, j'aperçois, qui nous vient de sa contrée lointaine, Balkis, la reine de Saba. Des présents, elle en transporte tant et plus. Corbeilles d'or, lingots d'argent, riches étoffes, bois de santal, encens et précieux coquillages emplissent sa caravane. Sans tarder et sans ménager mon souffle, je suis venue à tire-d'aile t'annoncer cette bonne nouvelle. Un Salomon a aussitôt fait prévenir gardes, servantes et serviteurs afin d'organiser l'accueil d'une telle reine. Puis il a continué d'interroger la huppe qui, à son oreille, a murmuré « Ô lumière de mon âme !» On le dit très riche, ce pays du Levant. La poussière de ses rues est plus précieuse que l'or, et le moindre de ses cailloux a plus de valeur que l'argent. Depuis l'aube des tout premiers jours, se dressent là-bas des arbres millénaires abreuvés aux sources de l'Éden. Le peuple se compose de gens sereins et sages. Aller à la guerre, ils ne le savent pas. Bander l'arc, jamais ils ne le veulent. Enfin, du royaume de Saba, suprême délice, la reine Balkis. Attentive, douce, perspicace. C'est ainsi qu'on la décrit. Quant à ce qu'elle paraît, je puis te l'affirmer, mon tante adorée, elle est d'une beauté à faire pendre les mâchoires. Sa peau, l'ébène. Son œil, un jet serti dans le plus pur ivoire. Sa bouche, à croquer. Ses lignes souples et fluides appellent la caresse, comme les mains étreignent les étoffes de soie. N'était l'amour souverain que je te porte, ô incomparable, en son giron de reine, je me serais laissé choir afin que de ses doigts graciles, elle câline ma frémissante houppe. et la huppe a poursuivi son discours. À peine la huppe avait-elle fini ce discours que la fanfare du fabuleux cortège retentissait en dehors du palais. Quand Balkis a pénétré dans la salle du trône, Salomon en est resté sidéré. Elle était plus belle encore que toute parole rapportée. S'avançant, seulette, dans la longue allée qui menait jusqu'à lui, elle avait à la fois l'allure frêle d'une jeune fille et la marche assurée d'une reine. Salomon a invité Balkis à prendre place sur de grands tapis qu'il faisait disposer à l'écart de son trône lorsque, le cœur remué par un bonheur ou une langueur ineffable, il désirait se délasser l'âme en écoutant des musiciens. Ainsi, au son de harpe, cymbalette et psaltérion, ils ont goûté une légère collation. Puis, comme Salomon ne cessait d'admirer la reine du coin de l'œil, s'interrogeant sur la motivation d'un tel voyage, Balkis lui en a enfin expliqué la raison. « En vérité, je suis ici dans une quête assez singulière. Je ne viens solliciter ni droit de commerce, ni coalition guerrière. Mon royaume est pacifique et prospère. Tu le vois bien d'ailleurs, les hommes y sont si sages qu'ils ont placé une reine à leur tête. Cependant, à en croire la rumeur qui passe aujourd'hui les frontières, nul être, aussi éclairé soit-il, ne peut égaler en sagesse le grand roi Salomon. Me voici donc, espérante et curieuse, hantée par ton prestige déjà légendaire, pour voir de mes yeux le prodige et goûter de mes oreilles les merveilles qui chaque jour, dit-on, sortent de tes lèvres sans pareil. » Tout cela est exagéré, a balbutié Salomon. Me voici tout entier devant toi et c'est à peine si je peux articuler la moitié d'un compliment. Les anciens prétendent qu'il n'existe pas de meilleure épreuve au savoir et à l'intelligence de l'homme que les énigmes qui naissent et se transmettent chaque jour sous le soleil. J'en ai rassemblé pour toi quelques-unes. Voudrais-tu les entendre ? Dis tes mystères, a répondu Salomon, et je tâcherai d'en trouver la clé. Et Balkis a ouvert le jeu. J'existais avant que le monde fût créé. J'ai alterné sans cesse les couleurs de mon vêtement. Des milliers d'années se sont écoulées et je demeure pourtant inchangée. Sais-tu qui je suis ? Oui, tu es le temps qui s'habille tantôt de jour et tantôt de nuit. Bien. Qui fut le premier, le ciel ou la terre ? Oh, le ciel sans doute, car il est écrit au commencement « Dieu créa le ciel et la terre ». Bien. Mais qu'y a-t-il de plus sûr que la terre et de plus haut que le ciel ? Une mère pour son enfant est plus sûre que la terre, et un père plus haut que le ciel. Connais-tu l'homme qui n'eut jamais de mère, mais qui néanmoins dans la mort retourna ses entrailles ? Et connais-tu aussi la femme qui naquit sans être engendrée de son père ni portée dans le sein de sa mère ? Oui, l'homme c'est Adam, qui sortit de la terre, retourna à la terre. La femme c'est Ève, qui fut engendrée sans père ni mère, du côté d'Adam. Et quel est le meilleur côté de l'homme ? Le côté gauche, là où est le cœur, racine de toute vie. Du reste, la femme qui allait commence le plus souvent par le sein gauche. Impressionné par cette répartie sans faille, Balkis a poursuivi « Oh, tout cela est bien répondu, mais sauras-tu me dire ce qu'il y a de plus fort que le fer ? Le feu. De plus fort que le feu ? L'eau. » De plus fort que l'eau, le soleil. De plus fort que le soleil, les nuages. De plus fort que les nuages, la montagne. De plus fort que la montagne, l'homme. Et de plus fort que l'homme, à cet instant, Salomon a hésité. Puis, ne voulant se soustraire à une vérité qu'il savait éternelle, il a répondu, de plus fort que l'homme ? La femme. Et comme Balkis riait de l'avoir ainsi manœuvré, Salomon a demandé à son tour Mais toi-même, sauras-tu me dire ce qu'il y a de plus fort que la femme ? En songeant à une autre vérité qu'elle savait éternelle, Balkis a répondu « De plus fort que la femme ? L'amour ?» À partir de ce jour, le sort du roi Salomon et celui de la reine Balkis étaient scellés. Leur souvenir est devenu source inépuisable de contes, fables, histoires, et jusqu'à aujourd'hui, il n'est de peuple en Orient qui ne se réclame descendant de leurs amours mythiques. Passionnée de secrets et de mystères, c'est là une des plus belles manières de sonder l'intelligence des cœurs et de mêler à plaisir et savoir et saveur. Conte d'antan, la nuit et le jour entressent le fil, le temps court et les heures défilent, tout ce qui est décidé nous attend. Écoutez, un jeune fils de roi languissait et s'ennuyait ferme dans son palais doré de la ville de Bizerte. Il lui semblait avoir déjà fait le tour de ce que pouvaient lui enseigner ses différents précepteurs, tant au niveau des écritures saintes que des lettres profanes, de la numération, de la physique, de l'alchimie ou de l'astronomie. À présent, il restait très souvent accoudé dans l'embrasure des fenêtres, observant l'agitation du souk et le méandre des ruelles. Il brûlait de s'y perdre pour être confronté enfin à ce que la vie pourrait bien lui enseigner. Au crépuscule d'un soir, n'y tenant plus, il s'est glissé dehors, revêtu d'un simple manteau de laine, et il s'est enfui. Comme il était érudit, doué des meilleures manières, et d'un visage avenant, il n'avait aucune difficulté à se faire passer pour derviche errant. Il trouvait ici et là quelques leçons à donner, une lettre à orthographier ou un manuscrit à recopier. Somme toute, il s'en sortait sans souci. Le plus exaltant pour lui était de pouvoir enfin partager la vie des gens dans toute leur diversité et tenter de comprendre les joies ou les peines qui les animaient. Au gré de ses pérégrinations, il lui arrivait aussi de rencontrer des voyageurs qui, comme lui, trouvaient intérêt et profit à arpenter le monde. Ainsi, la route du prince avait croisé à plusieurs reprises celle d'un joueur de sitar virtuose, d'un paysan robuste, puis d'un habile marchand avec qui, tour à tour, il s'était lié d'amitié. Enfin, par le plus grand des hasards et pour les besoins de cette histoire, les quatre hommes, un soir, se sont retrouvés en un même campement, où, sous le ciel étoilé, après avoir échangé quelques nouvelles et devises sur la marche des jours, ils en étaient arrivés à comparer les vertus et efficiences de leurs différents arts, métiers et moyens de subsistance. Le paysan lui prétendait que le travail de la terre était le pilier indispensable à toute société, et que la connaissance concrète de l'ordre de la nature était essentiel pour en faire germer les fruits. Ah, le musicien, lui, soutenait que sans poésie, le monde dépérirait, faute de sensations élevées. Le marchand, pour sa part, rétorquait que sans commerce, aucune circulation des biens n'était envisageable, et par là même, aucun progrès possible. Enfin, le prince affirmait qu'il n'y avait d'autre fin sur cette terre que l'étude et la compréhension du monde sous l'œil béni du Créateur. Ainsi, les quatre amis ont décidé de se mettre mutuellement à l'épreuve et d'élire le meilleur d'entre eux. Chacun s'en irait à tour de rôle vers la prochaine ville et, par le fruit des prouesses accumulées en une seule journée, régalerait le soir même leur petite société. C'est le paysan qui a commencé. Il s'est fait engager sans retard aux travaux des champs environnants. Et comme il abattait à lui seul la besogne de 10 hommes, on a payé son jour d'un dinar d'or. Avec lequel il a pu ramener du souk, brochettes grillées, poivrons farcis, fromage caillé, galettes de blé, bouchées sucrées, loukoum, makroud, baklawa, gorne de gazelle, limonade en pichet. Et cela en telle quantité que les 4 hommes ont festoyé très tard dans la nuit, tout en félicitant le paysan pour son efficacité. Le lendemain est venu le tour du musicien. S'installant à l'ombre d'une fontaine dans un riche quartier situé aux abords de la ville, il a accordé et fait sonner sa sitar. Aussitôt, un serviteur est venu lui demander d'approcher un patio pour y donner quelques airs choisis. Rapidement, la rumeur de son excellence a diffusé alentour. Avant la fin du jour, il avait joué en la plupart des cours et amassé près de 10 dinars d'or, avec lesquels il a ordonné qu'un banquet soit livré au campement. Et les 4 amis ont savouré des mets raffinés à profusion. Poivrons farcis, moutons rôtis, pastillas, purée de pois, brochettes d'agneau, jarrets de veau, boulettes et fricassés, tandis qu'un orchestre caressait leurs oreilles de musique et chansons. Ah, le paysan a reconnu avoir été dépassé, tout en déplorant qu'on préférât les mines éthérées d'un baladin à la bravoure d'un bon terrien. Le jour suivant, le marchand s'est mis en route. À l'aube, il se trouvait déjà au port et, louant les services d'un canotier, a rejoint les navires qui mouillaient au loin en attente d'autorisation pour débarquer leur cargaison. L'un d'eux transportait de l'huile d'olive. Et comme le marchand avait noté que les arbres de cette région étaient calcinés en raison d'un été brûlant, il a aussitôt proposé au transporteur de lui servir de courtier. Avant midi, il avait rencontré les plus grands négociants des environs, leur avait vendu toute la cargaison et, à force de marchandage, retenu pour lui une commission de 100 dinars d'or. Ah, vous imaginez quel banquet il a organisé pour ses 3 amis. Toutes les saveurs du Maghreb leur ont été servies. Couscous au bœuf, au mouton ou au poulet. Tagine d'agneau, de caille ou de pigeon. Kefta, kébé, briques aux œufs. Harissa, daffina, salade méchouya. Oh, on aurait dit que le calife Haroun al-Rachid, surgissant des 1000 et une nuits, était venu déverser sur eux sa magnificence. Tout le campement en a été illuminé et le faste des festivités était rehaussé par les exploits de batteleurs, de jonqueurs et fakirs. Ah, le musicien et le paysan s'en sont délectés. Regrettant cependant que l'habileté d'un marchand puisse surpasser en ce monde force ou raffinement. Au 4e jour, c'est le prince lui-même qui devait tenter de prouver l'excellence du savoir et de l'érudition. Or, par le plus grand des hasards et une fois encore pour les besoins de cette histoire, la ville près de laquelle les 4 amis s'étaient réunis se trouvait précisément être celle de Bizerte, où le père du prince régnait. Quand le fugitif est rentré, on a commencé bien sûr par lui reprocher l'inquiétude causée. Mais bien vite, tous se sont réjouis de le savoir de retour pour gouverner. Le soir même, une escorte royale est venue commander aux paysans, aux musiciens et aux marchands de les accompagner au palais. Peu rassurés sur ce qu'on leur voulait, les 3 hommes ont été conduits en la salle du Diwam où, à leur immense stupéfaction, ils ont découvert leur ami derviche qui trônait. Et tous 3 restaient bouche bée devant ce crime de lèse-majesté, quand le prince a éclaté de rire et leur a raconté par le menu qui il était. Et les 3 hommes, honorés d'une telle amitié, ont tout de même crié à la tricherie, ne voulant pas admettre que le prince les avait surpassés par son mérite. Ce à quoi il leur a rétorqué : « Ami, vous avez 1000 fois raison. Et je reconnais que la place que j'occupe ici en tant que prince n'est le fruit ni de mon savoir ni de mes peines. Certains naissent fils de roi et d'autres fils de mendiant. C'est là un secret du ciel. Laissons cela à la garde charitable du Créateur, loué soit son nom. Mais vous devez admettre que j'aurais pu devenir despote sanguinaire, roi pervers, que sais-je encore. C'est mon érudition qui m'a poussé à toujours vouloir m'améliorer davantage. et qui, de fait, m'a appris à apprécier la valeur de votre compagnie. Dès lors, si nous sommes tous les quatre indispensables à la bonne marche du monde, admettez que la connaissance en est la pierre angulaire, et la seule, tout du moins, à pouvoir distinguer et articuler l'importance de chacun. Ah, la chose était si joliment tournée, et sortant également tout droit de la bouche de leur souverain, que les trois amis ont bien voulu en convenir. D'autant que le retour du prince a été fêté dans tout le pays avec prodigalité, et qu'ils en sont réjouis bien plus encore que les trois autres nuits. Le musicien, le paysan et le commerçant sont devenus les conseillers du prince, et on prétend qu'il n'y a jamais eu de royaume plus merveilleux que celui-là. Le refrain est venu frapper à ma porte, tel je l'ai entendu, tel je le rapporte. Il était un grand conquérant issu des contrées moyen-orientales, un véritable faucheur d'âmes, inégalable à la lutte et aux mêlées. S'il entrait en fureur, ses narines jetaient des flammes. Lorsqu'il surgissait, la terre devenait cendre. Quelle était son histoire, nul n'aurait pu dire. Mais chacun savait qu'il avait écrasé bien des foules ennemies, dévasté presque autant de pays et conquis en une décennie tous les territoires depuis la Chine jusqu'à l'Italie en passant par le Yémen et l'Abyssinie. Son nom seul suffisait à faire trembler les hommes. Un jour pourtant, s'en revenant d'une bataille, le terrible combattant a entendu un musicien mendiant qui chantait. Il chantait « Il n'est d'homme si puissant qui ne soit oublié, les misères et les peines qu'ils ont engendrées, le monde les oubliera comme il m'oubliera. Bassesse ou au fait, tout disparaîtra, hormis cette chanson qui peut-être restera. » Ah ! Dès lors, le guerrier n'est plus parvenu à trouver le sommeil. Lui qui rêvait de gloire immortelle, quelques mots rimés, cinq vers éphémères, avait tourné ses vœux les plus chers en chimères. Et quoi ? Était-il possible vraiment qu'un jour, l'usure du temps efface à jamais son souvenir de la mémoire des gens? L'homme de toutes les batailles s'est alors mis en tête de composer lui-même des odes éternelles sur sa vie, ses prouesses, et échapper ainsi à l'inévitable oubli. Faisant saisir le mendiant, il l'a forcé, sous peine de supplice, à lui enseigner son art. Le musicien captif a bien voulu jouer le jeu, et, au risque de sa vie, s'est montré intraitable. Quand la brute enrageait de ne sortir du luth que des sons discordants, il répétait « Jouer, mon brave, n'est pas aussi simple que s'asseoir et manger à table. Il est aisé de décoller la tête d'un passant, massacré, ruiné, incendier un palais ou même une forêt. Mais la musique demande davantage de soins. Il faut travailler l'instrument simplement tous les jours, et lui communiquer peu à peu vos efforts. » Ah ! Le soldat mortifié a donc mis un frein à ses élans enragés et il a entrepris le long et laborieux apprentissage de la composition musicale et du kalam. Jamais dans ses combats il n'avait tant peiné, jamais il ne s'était autant livré. Bientôt, la sueur de son front a imbibé le bois du luth qui a frémi et gémi. Enfin, se rappelant la terre où il avait été planté, les eaux qu'il avait arrosées, les oiseaux qu'il avait abrités, l'instrument s'est mis à chanter. Le héros était devenu poète. S'apprêtant alors à improviser quelques flamboyantes et impérissables ballades sur ses plus fameuses batailles, il a soudain réalisé que toute envie de parler de lui, l'avait quitté. Quelle importance du reste avait son nom? Sur ses lèvres revenait plutôt la chanson que lui avait enseignée son maître et qu'il reprenait inlassablement. Il n'est d'homme si puissant qui ne soit oublié. Les misères et les peines qu'ils ont engendrées, le monde les oubliera comme il m'oubliera. Bassesse ou au fait, tout disparaîtra, hormis cette chanson qui peut-être restera. C'était des petits grains de sagesse du Maghreb. J'espère qu'ils vous auront plu. Au revoir et à bientôt, j'espère.